France Musique. Musicopolis. Le Conservatoire de musique et de déclamation déménage de la rue Bergère à la rue de Madrid. Lu dans le Paris Journal, mi-décembre 1910. Grand émoi, hier, dans toutes les classes du conservatoire, l'excellent monsieur Lamy, le surveillant général des cours, populaire parmi tous les espoirs, est passé dans toutes les classes et, de sa voix brusque et militaire, a annoncé que le transfert définitif du conservatoire de musique et de déclamation en son nouvel immeuble de la rue de Madrid aurait lieu dans la dernière semaine du mois. Les examens trimestriels auront lieu au mois de janvier, rue de Madrid. Enfin ! La veille de Noël 1910, nouvelle avis, cette fois-ci dans Le Ménestrel. Il n'y a que l'invraisemblable pour devenir vrai. Quelque singulier que cela puisse paraître, il est certain aujourd'hui que le conservatoire a vécu au Faubourg Poissonnière et que c'est rue de Madrid qu'il faudra s'adresser désormais pour avoir de ses nouvelles. Cette semaine, en effet, on a affiché intérieurement sur les murs de cet édifice glorieux mais vétuste un avis informant les habitués que tout enseignement serait suspendu du 25 décembre au 3 janvier. Après cette période de vacances, indispensable pour qu'on puisse procéder au transfert du matériel et des archives de la grande école, les cours reprendront et les classes seront rouvertes le 4 janvier dans les nouveaux locaux de la rue de Madrid. Enfin, le quotidien Le Journal nous donne tous les détails le 27 décembre 1910. On imagine que pendant la trêve des confiseurs, les journalistes sont heureux d'avoir un sujet aussi passionnant à se mettre sous la dent. Le Journal, donc, titre « Le conservatoire déménage ». Paris se déplace vers l'ouest et c'est peut-être pour cela que les élèves du Conservatoire national de musique et de déclamation, suivant le mouvement général, abandonnent la rue du Faubourg Poissonnière et s'en vont nicher rue de Madrid. On parlait depuis longtemps de ce déménagement, mais on ne le commençait jamais et l'on se demandait s'il serait jamais effectué. Mais enfin, tout arrive. Le conservatoire se déplace. De lourds camions traînés par des chevaux prudents et au pas lent, on reçut le dépôt précieux, des pianos à queue, des harpes, des trombones et des cornets à pistons. D'autres voitures ont été chargées de partitions et de livres, de manuscrits et de cartons verts. Quelques mélancolies émanent de ce déménagement. L'on se souvient de ces salles étroites, obscures et incommodes, mais où tant de jeunes gens, tout en se livrant à leurs études, ébauchèrent des rêves qui ne furent pas toujours réalisés. On se remémore la physionomie si joyeuse de la cour du vieux conservatoire au jour de concours. Et l'on revoit, en fermant un peu les yeux, le regard si fin et si matois de ce bon Francisque Sarcey, examinant depuis le balcon de la salle du conservatoire les espoirs du théâtre français. Tous ces souvenirs, on ne pourra les évoquer rue de Madrid, dans ce bâtiment tout neuf, sévère et froid, dont les plâtres n'ont pas encore eu le temps de sécher.
Elfes légers, elfes errants, vos pas distraits me guident mal. Vous m'entraînez vers l'ombre, vers la nuit. Quittez la profondeur sombre de ces forêts. Allez vers la lumière, allez vers la clarté, car ce n'est pas dans l'ombre de la terre, mais dans un rayon de lune argentée qu'elle m'est apparue. Barque frêle au mouvement très lent, chantant des chants étranges d'une terre inconnue. Elle, comme un grand lys, en ses longs voiles blancs.
L'article du journal regrette certains avantages de l'ancien conservatoire. Les jeunes élèves ne trouveront plus là-bas, aux abords de l'école, les petites boutiques de libraires, marchands de musique, épiciers, confiseurs, et même les échoppes des marchands de frites ou de marrons, où ils avaient coutume de s'arrêter faubourg Poissonnière. Rue de Madrid, ce sera plus guindé, plus mondain, plus chic. Et Mademoiselle Servatoire, là-bas, ne frôlera plus au passage Mimi Pinson, sortant de l'atelier ou y courant. Pour ce qui est des salles d'études du nouveau conservatoire de la rue de Madrid, elles seront vastes, claires et aérées. Mais tout le monde regrette la salle de théâtre et de concert de la rue Poissonnière qui avait vu tant de belles créations. Il est en effet question de la détruire, puisque le bâtiment doit être récupéré par le service des postes et télégraphes pour en faire un central d'appel. Mais on s'émeut, on proteste, on pétitionne, on voudrait la faire classer. Et d'autant plus qu'il n'y a pas encore de salle pour la remplacer dans les nouveaux locaux de la rue de Madrid. Le Ménestrel écrit en janvier 1911 « à propos de la répartition des classes dans le nouveau conservatoire de la rue de Madrid, où le bruit des marteaux accompagne encore les instruments ou les voix. Le conservatoire compte 85 professeurs. L'un d'eux, M. Paul Ducas, titulaire de la classe d'orchestre, ne connaîtra pas la nouveauté d'enseigner rue de Madrid. Ses élèves le rejoindront dans la salle des concerts de l'ancien conservatoire. Et cela tant que le Sénat ne sera point découragé de l'absurde veto qui suspend encore la construction de la salle de concert qui doit, logiquement, être annexée au nouveau conservatoire. En avril 1912, un an et demi après le déménagement du conservatoire rue de Madrid, la construction de la salle de concert n'est toujours pas à l'ordre du jour. Gabriel Fauré, le directeur de l'établissement, écrit à l'inspecteur général des théâtres. Quant à notre salle de concert, il est navrant de penser que personne n'en veuille comprendre l'urgente nécessité. Supposez qu'on déménage l'école polytechnique, qu'on la transporte à Montmartre et qu'on laisse les laboratoires de physique et de chimie sur la montagne Sainte-Geneviève. Vous aurez exactement notre situation vis-à-vis de la rue de Madrid par rapport à la rue du Conservatoire. La difficulté d'obtenir l'exactitude et la discipline hors de la maison rend la classe d'orchestre si fatigante que Paul Ducas n'en garderait pas une minute de plus la direction si ce n'était par égard pour moi. Encore faut-il que j'assiste moi-même à cette classe, dans l'ancien conservatoire, tous les lundis, pour que les élèves s'y tiennent en une tranquillité relative. Laissons le conservatoire attendre sa salle de concert et revenons un peu sur son histoire. Le bâtiment précédent, dans un pâté de maisons encadré par la rue du Faubourg Poissonnière et la rue Bergère, était occupé par la musique depuis 1784, époque de l'École royale de chant. L'école de la garde nationale de Sarrette s'y était à son tour installée en 1792. Les deux écoles étaient absorbées en 1793 par l'Institut national de musique qui devenait en 1795 le conservatoire, toujours au même endroit. Après un enthousiasme généreux des gouvernements révolutionnaires, les budgets baissent considérablement à la restauration, puis peinent à reprendre du poil de la bête. Jusqu'à 1910, les directeurs successifs ont dû lutter pour entretenir leurs locaux.
Quand ange, oh haine, oh rage, ah, ils ont l'orgueil et le courage, je pourrais les rassembler si le maître devant notre colère, il va bientôt trembler, il va bientôt trembler.
Après Sarrette, le fondateur, les directeurs du conservatoire, 6 en 110 ans, ont été Perne, Cherubini, Aubert, Ambroise Thomas, Théodore Dubois et enfin, depuis 1905, Gabriel Fauré. Il y a beau temps qu'on réclame de nouveaux locaux. Déjà le 14 novembre 1881, un projet de loi est déposé par Jules Ferry. L'introduction souligne l'urgence de reconstruire ou d'agrandir le conservatoire. L'importance de son enseignement, lit-on, de sa bibliothèque et de son musée, s'est successivement accrue dans des proportions considérables, en sorte qu'aujourd'hui, les locaux affectés à notre grande école lyrique et dramatique ne sont plus en rapport avec ses besoins nouveaux. L'insuffisance des bâtiments est devenue un obstacle non seulement au développement normal des différents services, mais encore à la régularité de leur fonctionnement. En 1883, le projet est retiré. On ne fera rien. En 1896, nouveau rapport sur l'urgence de transformer les locaux du conservatoire. Rapport qui insiste aussi sur la différence de traitement avec l'école des Beaux-Arts, qui a vu, elle, ses locaux rénovés, son budget augmenté et dont les professeurs sont payés 30% de plus. Les 75 classes du conservatoire, qui existent indispensablement, y étouffent et se superposent pour ainsi dire. Classes de piano, classes de trompette, classes de violon se renvoient les unes aux autres à travers des cloisons trop minces, les accords de leurs instruments résonnant dans des sortes de cabinets qu'on décore du nom de salles. Si bien qu'une cacophonie générale règne en permanence dans une enceinte consacrée à l'harmonie. Que de fois aussi, des éclats de trombone viennent donner la réplique aux élèves des classes de déclamation, en même temps que les chanteurs subissent des accompagnements inattendus. Le rapport de 1896 concernant l'état du conservatoire insiste sur les conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. Écoutez plutôt. Ces bâtiments sont dans un tel état de vétusté qu'ils tombent littéralement en ruine. Construits avec des matériaux anciens, ils sont constamment menacés de s'effondrer. On n'ose pas même faire poser le gaz dans la plus grande partie de l'édifice, tant les affaissements sont redoutables. Le moindre commencement d'incendie prendrait des proportions auxquelles on n'ose songer. Un rapport de juillet 1997 met encore davantage l'accent sur ce point. Les précautions contre le feu que la préfecture de police se croit obligée d'imposer dans les salles de théâtre à la suite de l'incendie du bazar de la Charité condamnent celles des concerts du conservatoire. Malgré tous les inconvénients et les risques pris à rester dans les vieux locaux du conservatoire, il faudra donc attendre la fin de 1910 pour qu'enfin l'institution déménage. Le journal conclut sur l'événement. Bientôt, le faubourg Poissonnière ne reverra plus nos espoirs. Les demoiselles du téléphone et les jeunes gens de la poste et du télégraphe auront pris leur place. Et là où Sylvain enseignait la tragédie et Isnardon le chant, l'on n'entendra plus désormais que le tic-tac des appareils Bodo et que les appels du téléphone. Allô, allô, j'écoute ? Tandis que dans l'ancien collège des Jésuites de la rue de Madrid, les murs stupéfaits entendront les imprécations de Camille ou les roulades du barbier de Séville. L'air de Rosine au premier acte du Barbier de Séville, de Rossini, Maria Callas avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Tullio Serafine. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Catherine Dérété pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.